18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, c'est ici que ça se passe, début de semaine, avec nous, avec vous, votre rendez-vous incontournable, votre rendez-vous d'actualité et d'information. Commenter, analyser, décrypter. Ça, c'est les trois mots d'ordre qui vous concernent pour les informer de 18h à 19h30. Alors au sommaire, riche programme qui vous attend. Tout d'abord, nous irons direction, vous savez, pour parler de l'ADIV avec le directeur général délégué qui sera avec nous tout à l'heure dans une poignée de minutes. L'ADIV qui parle, qui prône la diversité, justement. Ils se rendent d'un événement depuis Londres où ils ont parlé diversité. La France a-t-elle du retard concernant la diversité? La France est-elle justement, a-t-elle un rapport évidemment biaisé avec le sujet de la diversité? On en parle avec tout à l'heure, justement, le délégué général de l'ADIV. Ensuite, après, les auditeurs. Eh bien, chers amis auditeurs, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, un sujet qui vous concerne. Parce que pour le ministre de l'Éducation nationale, eh bien, lui, il fait cette déclaration, nous devons parler d'éducation à la sexualité à l'école. Je sais que c'est un sujet qui vous travaille, je sais que c'est un sujet aussi qui vous concerne. Alors, peut-on parler sexualité? Doit-on enseigner la sexualité à vos enfants à l'école? Parlons-en à partir de 18h10, justement, au 01 53 48 3000. Ensuite, chers amis auditeurs, 18h30, le Quoi de Neuf, avec l'édito, le billet d'humeur, comme chaque lundi. Maître Philippe-Henri Honegger, qui sera avec nous pour nous livrer ce regard sur l'actualité, notamment sur le volet juridique. Ah, le face-à-face, 18h30, 19h30, Bruno Pomard, ancien du RAID, et puis le président de Banlieue Plus, qui s'appelle Nadir Kaya, seront ici, en direct, sur le plateau, pour confronter leurs points de vue, pour parler, échanger, polémiquer certainement sur les trois sujets qui nous concernent. La fête de l'UMA. Ah, les propos polémiques. Est-ce qu'on peut faire une clochette? Parce qu'il mérite Fabien Roussel. Tra! Tac, 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 tac. Les propos de Fabien Roussel, vous savez quoi, ont provoqué un tollé. Une polémique. Bon, alors, ça se comprend, ça se comprend pas, ça se défend. Réaction de Jean-Luc Mélenchon qui lui dit vouloir tacler Fabien Roussel qui veut s'attaquer à cette gauche qui est dans une assise de confort quand on parle des allocs, quand on parle de travailler tout simplement. Bon, alors les valeurs de la gauche, on va peut-être la redéfinir avec nos débatteurs. Autre sujet, on reviendra sur le ministre de l'Éducation nationale qui propose à la fois deux petites choses. La revalorisation salariale concernant les professeurs. Dès l'entrée, il a dit 2000 euros. Est-ce que c'est suffisant? Et puis on viendra sur l'éducation à la sexualité, justement avec nos deux débatteurs. Autre sujet qui nous concerne, vous savez, eh bien c'est l'Ukraine. L'Ukraine qui dit tout simplement la chose suivante, qu'elle a rattrapé certaines villes, et puis surtout la guerre en Ukraine, la Russie qui répond, qui bombarde ces zones requises par Kiev. On en parle tout à l'heure, vous avez vu, je vous ai prévenu, hein. Sacré programme. Ça se passe au 01 53 48 3000. Allez, c'est parti, et plus que jamais en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan. Allez, Les Informés. L'interview.
L'interview, c'est avec l'ADIV, l'Agence pour la diversité entrepreneuriale. Et c'est avec son directeur général délégué, qui s'appelle Majid El Jaroudi. Bonjour, monsieur le directeur.
Bonjour, Adil.
Comment ça va?
Bah écoutez, très bien, merci beaucoup pour votre invitation.
Mais c'est avec plaisir. Rappelons ce que c'est que l'Agence pour la diversité entrepreneuriale, mon cher directeur général, mon cher Majid El Jaroudi.
Alors, l'ADIV, c'est une organisation que j'ai créée maintenant il y a plus de 10 ans, dont la mission principale était d'aider les entrepreneurs installés dans les quartiers, et puis surtout les entrepreneurs issus de la diversité, hein, selon le terme consacré, à développer leur chiffre d'affaires en les connectant avec des multinationales, avec les services achats de multinationales. Voilà, au cours des années, notre modèle a un petit peu évolué, et ces dernières années, on a beaucoup fait à la fois des programmes d'accompagnement pour les entrepreneurs, pour les aider à se renforcer, et également, on a beaucoup voyagé en Europe pour aider d'autres territoires à soutenir l'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat des personnes migrantes.
Est-ce que vous avez le sentiment des migrants?
Alors les migrants, oui, parce que les migrants, comme vous le savez, ça a été un vrai phénomène en 2015, notamment en Allemagne, où, qui a accueilli plus d'un million de personnes, ou en Suède, qui a accueilli l'équivalent de, je crois, 8% de sa population. Et parmi ces populations, il y avait des individus qui venaient dans ces territoires. Il y avait des entrepreneurs qui ont eu besoin de quelques années d'acclimatation, mais qui sont potentiellement des créateurs d'emplois et de richesses pour ces pays.
Et comment vous agissez concrètement quand vous parlez de migrants? Ça veut dire quoi? Vous leur trouvez du boulot? Vous les accompagnez? Vous les formez?
Alors non, ils créent leur propre emploi en fait, hein, puisque ce sont bien des chefs d'entreprise et des entrepreneurs, hein, donc ils n'ont pas besoin de nous pour trouver de l'emploi. Au contraire, mais ils ont besoin d'un soutien pour développer leur chiffre d'affaires et de convaincre un petit peu le marché que les produits et les services qu'ils proposent sont intéressants et sont attractifs, notamment auprès des multinationales.
Et dites-moi, quand vous dites les migrants, c'est notamment ceux qui sont issus de l'Afrique tout court, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord?
Alors, on n'a pas les mêmes définitions. Hein. Suivant les pays, la notion de migrant est très, 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 très vague. Hein. On va dire que ce sont toutes les personnes qui ont effectué un acte de migration, elles-mêmes, leurs parents, voire leurs grands-parents dans certains pays. Donc les personnes qui sont issues d'immigration en France, du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient, etc., toutes ces personnes sont qualifiées migrantes. Donc nous, on va plutôt parler de diversité plutôt que d'immigration. Mais bon, ça revêt la même réalité.
2009, vous l'avez rappelé, c'est la création de la DIV. Quel bilan finalement tirez-vous de la DIV depuis sa création? Nous sommes en 2022, fin 2022. Est-ce que, je vous pose la question de façon claire, Majid El Jaroudi, monsieur le directeur général, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le bilan est un bilan évidemment positif en direction de la diversité, en direction de toutes ces questions qui nous concernent au sein de notre société, ou est-ce que c'est un bilan mitigé?
Alors, pour vous parler très franchement, puisque c'est le ton de l'émission, je vais vous dire qu'il y a eu plusieurs étapes. Déjà, parler de création d'entreprise, parler d'entrepreneuriat à l'époque 2008-2009, au moment où on a créé la DIV, c'était une gageure. Hein. Vraiment, c'était un sujet qui était un peu émergent et qui s'est imposé au fil du temps. Donc aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est une réalité pour bon nombre des auditeurs. Hein. Mais il faut rappeler, dans le contexte, il y a 10 ans, il y a 15 ans, voire il y a 20 ans, alors c'est une anecdote que j'aime bien dire, parce que quand on parlait d'entrepreneurs à l'époque, on parlait de personnes qui travaillaient dans le bâtiment. Alors c'était vraiment un état d'esprit qu'il fallait changer. L'entrepreneuriat, c'est un sujet qui concernait tout le monde, et notamment les gens issus de l'immigration et de la diversité. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'à ce niveau-là, le combat, il a été remporté, puisque maintenant, l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui concerne vraiment tout le monde. Concernant le sujet lié typiquement à la diversité elle-même, là, je suis plus mitigé, parce que ce sujet est étroitement lié au pouvoir public et aux politiques publiques qui sont mises en place. Et on a pu constater au fil du temps que suivant les majorités en place et suivant le pouvoir en place, le sujet était plus ou moins prégnant. Alors quand on a créé en 2008-2009, c'était un sujet. Hein, on avait un haut commissaire en charge de la diversité qui était lui-même un entrepreneur, hein, Yazid Sabeg. C'était un sujet qu'on évoquait beaucoup dans la classe politique. Ensuite, en 2012, c'est devenu un non-sujet. Hein. La diversité, ça n'intéressait pas grand monde. Et donc, au fil et à mesure des politiques qui sont passées, le sujet a été plus ou moins porté avec plus ou moins de succès. Là, j'ai le sentiment que, pour avoir notamment ces dernières années, puis avant le Covid et puis après le Covid, que le sujet il est très très porté au niveau européen et un peu moins au niveau français. Et c'est tout le challenge que nous avons aujourd'hui, c'est d'amener tous nos collègues européens à convaincre l'écosystème français que oui, l'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat pour les personnes issues de la diversité, est une source de richesse. Et c'est pour ça que nous avons contribué à la rédaction d'un rapport sur l'entrepreneuriat des minorités en Europe. Et on se rend compte que la France est un des premiers pourvoyeurs d'entrepreneurs issus de minorités ethniques, et ça contribue à près de 10% de la création de richesses en Europe. Donc les entrepreneurs issus de la diversité ou de l'immigration, on peut dire, contribuent à plus de 500 milliards d'euros de richesses chaque année.
500, ouais.
500 milliards tous les ans pour les pays européens. Et la France se classe en deuxième des plus gros pourvoyeurs après l'Allemagne, avec une très grosse cohorte d'entrepreneurs issus de l'immigration et notamment issus de l'Algérie.
Dites-moi, justement, Majid El Jaroudi, vous, délégué général et fondateur de la DIV, vous avez posté sur LinkedIn quelque chose qui vous a réjoui, notamment à Londres, où vous avez participé à la plus grande rencontre des entrepreneurs de la diversité en Europe. Ça se passe à Londres, cette grande diversité ?
Alors oui, c'est pas étonnant. Alors, les circonstances étaient assez exceptionnelles, puisqu'on était à Londres le jour même du décès de la reine. Donc c'était assez incroyable. Et c'était beaucoup d'entrepreneurs du Commonwealth qui étaient représentés au cours de cet événement. Alors, pour vous donner quelques chiffres qui donnent le tournis, c'était à peu près 500 entreprises issues de la diversité qui étaient présentes. C'était à peu près 400 acheteurs de multinationales, de grands groupes internationaux qui étaient présents. C'était des entrepreneurs qui venaient de pays comme l'Australie, l'Afrique du Sud, les États-Unis, les Pays-Bas, la Suède, etc. Tous des entrepreneurs issus de la diversité, donc issus de l'immigration dans ces pays-là. Et donc, nous avons été invités au titre, parce que nous sommes partenaires justement de ce programme, et nous avons eu l'occasion d'inviter des entrepreneurs français. Alors, pas beaucoup parce que les places étaient chères, mais on a quand même réussi à inviter quelques entrepreneurs qui ont eu l'occasion de rencontrer des décideurs, des directeurs achats monde. Mmh. Qui était présent. Alors, pour vous donner un exemple très concret, on a rencontré donc avec nos entrepreneurs la directrice achat Europe d'une marque de sportswear très connue américaine avec une virgule qui souhaitait identifier des entrepreneurs dans le domaine du marketing dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris. Voilà, typiquement. Alors, ça, c'est très concret. Donc, c'est des appels de CV contrats pour les entrepreneurs très concrets. Et puis, on a vocation. Parce qu'en France, comme je l'ai dit, le sujet a du mal à...
Mais pourquoi il a du mal à prendre ? Pourquoi à l'extérieur ça fonctionne, ça matche bien ? Ça, voilà, quand on parle de diversité, on est très à l'aise avec ça. Et pourquoi en France ça bloque ? Pourquoi la question de la diversité, ici en France, on a un problème avec ce terme ?
Alors déjà parce qu'on ne sait pas nommer les choses. Les Anglais, dans beaucoup, beaucoup de pays, il n'y a pas de problématique à dire qu'il y a des minorités ethniques. Ils savent les identifier, ils savent les compter, ils ont des stats. En France, déjà, on ne peut pas en parler. Déjà, donc, on est un peu bloqué. Et c'est l'une des recommandations du rapport dont je vous parlais, c'est justement d'avoir la possibilité de collecter des données ethniques sur les individus, notamment les individus qui créent de la richesse, pour démontrer... Si encore on en avait besoin, que l'immigration est une source de richesse pour le pays qui accueille. Et donc le fait de ne pas savoir nommer les choses, quand on ne sait pas nommer, on ne sait pas définir. Donc voilà, ça c'est le premier sujet. Et deuxième sujet, c'est qu'on parle d'entrepreneuriat, on parle de création de richesse, on parle d'entrepreneur à succès, et ça reste un peu tabou quand même en France. On aime bien les entrepreneurs quand ils sont quand ils sont tout petits, mais dès qu'il s'agit d'avoir du succès, de grossir et de se développer, on aime un peu moins. Donc voilà, il y a un problème de culture qui est en train de se changer, justement du fait des entrepreneurs, des diversités, mais c'est le travail d'une génération.
Travail d'une génération, justement. Le constat, aujourd'hui, est-ce qu'il est amer quand on parle de la question de la représentativité, y compris dans la fonction publique et la fonction privée ?
Alors, je connais personnellement votre combat sur les questions de représentativité, notamment dans les médias, et vous le savez, ce sont des combats de très longue haleine et pas faciles, surtout quand on n'a pas une écoute hyper favorable de la part des pouvoirs publics ou des institutions qui sont en place, parce que les institutions, on va pas se mentir, on est en France, donc les institutions sont très réticentes au changement dans ce pays, et donc l'arrivée de nouveaux acteurs et de nouveaux talents, ça bouscule les habitudes. Moi, je dirais pas que je suis amer, je dirais que je suis encore plein d'espoir et plein de volonté, mais je crois que le succès des uns et des autres et sur ces sujets de représentativité passera par le soutien des organisations et des initiatives étrangères. Comme vous le savez, nul n'est prophète en son pays, et donc c'est difficile de plaider pour ces sujets quand on est tout seul en France. Mais le fait de le faire à plusieurs, et notamment à l'échelle européenne, ça peut changer la donne, et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec ce programme qui s'appelle Supplier Diversity Europe, donc diversité des fournisseurs en Europe, et qui est soutenu par des grandes entreprises. Pour vous donner des exemples de grandes entreprises, ce sont les Google, ce sont les Meta, Facebook, c'est AstraZeneca, les vaccins, c'est Unilever, les déodorants, les savons, etc. Ce sont des entreprises c'est Amazon, c'est des entreprises qui sont des multinationales, qui elles ont compris l'intérêt de la diversité, qui potentiellement peuvent ouvrir leur carnet de commandes à des entrepreneurs issus de ces sujets.
La DIV, juste rapidement, quels sont les chantiers qui vous attendent justement pour 2023?
Alors, les deux gros chantiers, très, très brièvement. Alors, le premier, ce sera la promotion de cette étude. C'est la première étude sur les entrepreneurs issus de l'immigration. Première étude au niveau européen. Hein. C'est 6 pays européens qui ont été concernés, dont la France. Donc, et donc, on va faire la promotion et puis on va faire la tournée des popotes, en quelque sorte, pour présenter les résultats qui sont assez exceptionnels, notamment en France. Deuxième volet, ce sera la participation au sommet de l'inclusion économique qui aura lieu fin novembre. Et c'est un sommet qui est organisé avec la Fondation Mosaïque sur les questions d'inclusion et de diversité, à la fois sur les ressources humaines, mais également sur les questions entrepreneuriales.
Oui.
Et ce sera le lancement officiel de l'initiative Supérieure Diversité France, donc début d'année 2023, avec quelques grands comptes qui vont ouvrir leur carnet de commandes.
Merci infiniment d'avoir été avec nous, Majid El Jaroudi, le directeur général et fondateur de l'Agence pour la diversité, la DIV. Merci, Majid El Jaroudi.
Merci, au revoir.
Au revoir, à très bientôt. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a affirmé aujourd'hui sur France Info qu'il n'y aurait pas de cours de genre à l'école. Mais bon, il préconise, nous devons parler d'éducation à la sexualité à l'école. Tiens, je vais ouvrir l'antenne. Je veux qu'on en parle. Tout de suite, maintenant, partout en France, 01 53 48 3000. Êtes-vous d'accord avec l'éducation nationale, avec le ministre de l'éducation nationale, quand on parle d'éduquer ses enfants, parler de sexualité? Parlons-en. À tout de suite, je vous attends. On va justement en parler. 01 53 48 3000.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan. 01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Oui, parce que le standard est ouvert. Ça y est, le standard est ouvert. 01 53 48 3000, chers amis auditeurs. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, il a affirmé, figurez-vous, aujourd'hui, ce matin, enfin tout à l'heure, sur France Info, qu'il n'y aurait pas de cours de genre à l'école. Mais en revanche, il dit, nous devons parler d'éducation à la sexualité à l'école. Alors, je sais que vous, ça vous fait grincer. Je sais que faire éduquer son enfant sur autour de la sexualité, il y a des parents, j'avais ouvert l'antenne l'année dernière, qui sont pour, et d'autres qui sont contre. Alors aujourd'hui, si on doit éduquer vos enfants à la sexualité, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes ouvert? Est-ce que vous avez envie qu'on éduque vos enfants à la sexualité à l'école? Est-ce qu'on a envie de, voilà, un cours spécifique autour de la sexualité? Parlons-en, 01 53 48 3000, je veux qu'on en parle. Je veux aussi notamment qu'on... très librement. Et tiens, Sarah, qui nous appelle du 95. Vous le savez que c'est votre rendez-vous, ça. C'est votre talk show. Sarah, bonsoir, bonjour.
Oui, bonjour Adil.
Bonjour, vous nous appelez de quelle ville?
Tiens, tu... Chaumontel, c'est pas très connu.
Allumé.
Val-d'Oise.
Val-d'Oise, bon. Eh ben Sarah, alors, qu'est-ce que vous pensez de... cette déclaration du ministre?
Alors, moi, ça fait 25 ans. Donc, ça fait 25 ans que je suis dans l'éducation nationale.
Oui.
Et pour moi, il est important qu'on en parle, qu'il y ait cette éducation à la sexualité, mais dans un but de prévention et d'information.
Oui.
Voilà, parce que ça s'avère que l'expérience me fait... j'en suis même persuadée, c'est que l'information ne passe pas auprès des jeunes. Les parents... qui parlent à leurs enfants, a priori, il n'y a pas de souci. Mais souvent, les enfants qui arrivent enceintes ou qui ont à 14 ans, qui ont certaines choses à l'école, ont besoin d'être informés, ont besoin qu'on les informe.
Vous-même, vous dites que vous êtes enseignante. Vous êtes enseignante, c'est-à-dire oui. Dans un collège?
Alors, j'étais conseillère principale d'éducation.
Oui.
En Seine-Saint-Denis. Et actuellement, je suis directrice d'école aussi en Seine-Saint-Denis. J'ai été aussi surveillante pas mal d'années dans les collèges et lycées.
Vous êtes directrice d'école, effectivement, vous, votre souhait, c'est aussi d'accompagner à cette éducation à la sexualité à l'école.
Oui.
C'est plutôt une bonne chose, vous trouvez-vous?
Oui. Pour vous donner une information.
Allez-y.
L'an dernier, on a eu un problème par rapport aux réseaux sociaux avec deux classes, d'enfants gentils, hein, il n'y a aucun souci avec ces enfants, mais qui se sont amusés à envoyer des photos pornographiques, des vidéos.
Ouais, ouais, c'est ça qui est terrible. Ouais.
C'est ça, des choses très trash. Et on a dû faire un très très gros travail avec ces enfants pour leur expliquer que la sexualité, ce n'était pas ça.
Ouais.
Ce n'était pas ça. Mais ces enfants, ben voilà, ils ne connaissent pas. C'est tout ce qu'ils connaissent. Ils voient des vidéos qui sont très trash, qui sont violentes, qui sont très très hard. Hein. Ben voilà, ils n'ont pas peur des mots. Et c'est pour ça que pour moi, cette éducation, vraiment dans un but de prévention et d'information, on n'est pas dans un but en train de dire aux enfants, allez-y, c'est plutôt de dire attention.
Bon, Sarah, vous, attention. C'est important. Vous savez ce qui est important, c'est que vous êtes directrice d'école et vous venez d'importer justement quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que les écoliers, les élèves, donc globalement les collégiens, ils se feront leur propre éducation, c'est-à-dire leur propre éducation sexuelle, mais voilà, où ? Sur les réseaux sociaux et notamment, vous savez quoi, sur les chaînes YouTube, il y a plein de trucs autour du porno, etc. Et j'avoue que forcément, ça pose problème quand même.
Ça crée des dégâts, surtout.
Effectivement, je vais vous donner la parole. Sarah, merci infiniment d'être intervenue.
Merci. Et si je peux me permettre, sur les 2000 euros.
Oui, allez-y.
Ah oui.
C'est la déclaration du ministre. Hein. Il dit voilà. La revalorisation du salaire, 2000 euros pour toutes celles qui entament leur profession.
Alors, qui débutent.
Qui débutent, c'est ça.
Voilà, en sachant qu'il y a des.
En net, en brut. Une petite nuance.
En net. Alors, en sachant qu'il y a des enseignants qui exercent depuis 18 ans et qui touchent 1600 euros,
c'est pas normal.
À un moment donné, il va falloir qu'ils se posent des questions, notre ministre.
Oui.
Et que soit ils revalorisent tous les salaires. Ils ne peuvent pas revaloriser des enseignants pour boucher les trous.
Oui. Ça, c'est vrai.
Pour créer une scission entre les anciens et les nouveaux.
Il faudrait que ce soit simplement un minimum, tout simplement. On commence par 2 millions.
Diviser pour mieux régner. Ouais.
Sarah, merci infiniment. C'est précieux ce que vous nous dites là. Après, je vous donne la parole, messieurs les débatteurs. Mais là, c'est un peu l'espace des auditeurs. Vous allez pouvoir réagir. Farah, bonjour Farah. Vous nous appelez de Drancy. Farah, où est-elle, Farah? Bon, elle a un problème de connexion, ça, Farah. Farah, si vous nous écoutez, vous nous appelez. Je vous attends aussi, tous les autres auditeurs partout en France, 0153 48 3000. Nadir Kaya, bonjour, président de Banlieue Plus.
Bonjour Adil, bonjour à tous, merci pour l'invitation.
Bruno Pomard, ancien du RAID, notamment aujourd'hui, les chroniqueurs médias, bonjour.
Salut Adil, oui c'est ça Adil.
C'est ça, pourquoi
parvenu. Non, j'allais partir sur notre ami.
Et Nadir, puis,
voilà. Et merci de ton invitation.
Avec grand plaisir, messieurs. Vous voulez réagir sur ce que vient de dire Sarah ?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Bien évidemment qu'il faut parler de sexualité à l'école. Pour moi, c'est un complément parce que déjà, en tant que parent, il faut aussi déjà l'aborder dans le milieu familial. Bien évidemment, il peut y avoir une certaine pudeur dans le milieu familial.
Vous l'avez dit, permet pas aborder dans le milieu familial. Est-ce qu'on l'aborde ?
Je ne sais pas si on l'aborde, mais il faut l'aborder. Moi, je suis pour l'aborder. Ça fait partie aussi de l'éducation et de la responsabilité des parents de préparer leurs enfants au monde de façon générale et notamment à cette partie-là concernant la sexualité et surtout sur le fait qu'aujourd'hui dans les réseaux sociaux on voit tout et n'importe quoi et ça peut malheureusement aboutir à des drames. Je pense qu'il faut déjà anticiper, parler de ça avec ses enfants dès le jeune âge, bien évidemment avec les mots, avec une certaine pudeur et en complément l'école peut le faire aussi dans des matières et dans des registres bien spécifiques.
Est-ce que c'est tabou ? Est-ce que les parents c'est un sujet tabou, Bruno Pomard ?
Pour certaines familles je pense que c'est un sujet tabou, c'est pour ça que l'éducation nationale est là aussi pour éduquer dans ce type de domaine, mais je pense que c'est une nécessité absolue, plus que ces affaires de genre et compagnie, hein. On a autre chose de plus sérieux à parler à l'école, parce que effectivement, quand on voit ce qui se passe, tout ça débouche sur quoi ? Ben, ce que disait Nadir à l'instant, les réseaux sociaux, ça amène à voir des gosses qui violent quelqu'un, une fille, une jeune fille, parce qu'on a vu ça sur les réseaux sociaux, on dit que c'est presque normal de faire ça, ou les tournantes, tout ce qu'on peut imaginer. Donc c'est important, je crois, d'éduquer nos gamins. Et d'ailleurs, le travail de cette instruction civique, quelque part, c'est aussi dans les SVT, les cours d'SVT, il y avait des cours aussi sur la sexualité. Très basique, mais je pense que là maintenant.
Dans le domaine de la biologie, sur la reproduction, sur le cycle classique.
Tout à fait. Et ce danger qu'il y a actuellement des réseaux sociaux, il faut y aller rapidement.
Et les dérives, nous parlons-en justement. Mesdames et messieurs les auditeurs, je vous attends à un numéro 01 53 48 3000. Là, je vous attends, bien sûr, comme Sarah, comme Farah, comme tous les autres. Je vous attends au 01 53 48 3000. Venez en parler. Est-ce que c'est un sujet tabou quand on parle de sexualité? Est-ce que vous êtes favorable pour que l'éducation nationale justement accompagne vos enfants quand on fait des cours à la sexualité? Justement, la déclaration du ministre ce matin disait que nous devons parler d'éducation à la sexualité à l'école. Êtes-vous évidemment, est-ce que c'est quelque chose qui vous pose problème, vous, moralement? Est-ce que c'est un sujet tabou? Est-ce que vous en parlez ouvertement avec vos enfants? Ou est-ce que vous considérez qu'ils doivent faire leur propre éducation? Parlons-en, 01 53 48 3000, je vous attends. On va faire une pause, la pause pub, et on se retrouve avec le face-à-face.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan. Les informés, le face-à-face.
18h40 et je vous attends au 01 53 48 3000, chers amis auditeurs, pour intervenir justement, nous donner notre avis, nous livrer votre avis, votre point de vue partout en France. Je voudrais vous entendre nous dire tout simplement comment réagissez-vous face à la déclaration du ministre de l'Intérieur, vous avez vu le lapsus, Fauconnier, ouais. Le ministre de l'Éducation nationale, monsieur Pap Ndiaye, qui dit tout simplement vouloir éduquer à la sexualité à l'école, éduquer nos enfants à la sexualité à l'école. Êtes-vous comment vous réagissez tout d'abord un premier point, et puis comment vous l'accueillez? Est-ce qu'il faut éduquer les enfants à l'éducation, à la sexualité? Est-ce que vous êtes favorable? Est-ce que c'est un sujet qui est tabou? Est-ce que vous en parlez vous-même avec vos enfants? 01 53 48 3000. Le face-à-face avec Bruno Pomard, ancien membre du RAID, responsable notamment. Aujourd'hui, c'est reconverti chroniqueur média, mais aussi maire d'une petite ville.
Un petit village dans le sud, dans l'Aude, Belflou.
Ah, exactement.
Il garde les pieds sur terre.
Ah oui, un petit peu. Ouais,
ça fait du bien. J'imagine. Ouais. Raison.
Également face à lui, c'est Nadir Kaya, le retour, président de Banlieue Plus. Nadir, ça va?
Très bien.
Messieurs,
c'est la rentrée, il fait beau.
Ce premier sujet, il fait beau.
27 degrés, oui. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à cette époque-là?
La fête du Luma, cette année, c'est une fête à polémique. Pourquoi? Les propos du communiste Fabien Roussel, le député, sur la gauche, le secrétaire national du Parti communiste, est-ce que c'est un bad buzz? C'est un vrai buzz? Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait polémique face à évidemment, avec son propre, justement, camp? Écoutez les propos et on vient les commenter. Écoutez, écoutez les propos de Fabien Roussel qui a provoqué une vraie polémique. Écoutons.
Moi, la France pour laquelle je me bats, c'est une France du travail dans laquelle nous arrivons à éradiquer le chômage. Éradiquer le chômage, ça veut dire que nous avons tellement de défis à relever, d'emplois à pourvoir, que dans ma France, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus d'allocations chômage, et c'est de ces allocations-là dont je parle. Il n'y a plus de RSA, il n'y a plus ces revenus de substitution qui permettent de nourrir le chômage. Moi, je veux nourrir le travail et je souhaite que tous les jeunes, tous les Français aient accès à un travail avec un salaire permettant de vivre dignement.
Ah là là là, et ça a provoqué la polémique. Nadir Kaya, Fabien Roussel et la polémique concernant la gauche du travail.
Non, mais bon, après, je pense que
Ça passe pas.
Le fond est bon. Nourrir le travail, oui, peut-être pas avec ce genre de propos. Parce que c'est des propos qui font polémique, parce qu'on a l'habitude un petit peu de taper sur les pauvres et les classes moyennes. Donc pour un communiste, c'est un peu marrant d'entendre ça de sa bouche. Même si moi, localement, je suis habitué à avoir un maire communiste et avoir des postures qui sont un peu semblables à celles qu'il peut critiquer un petit peu. C'est un responsable politique. Aujourd'hui, moi, je me lasse de ces discours-là et de ces petites phrases. Moi, ce qui m'intéresse en tant que Français, c'est de voir comment ces politiques et ces soi-disant responsables politiques sont capables d'avoir une réflexion poussée sur le pouvoir d'achat, sur la cohésion nationale. Ces petites phrases-là, franchement, ça rentre dans une oreille, ça ressort très très vite, parce que ça ne nourrit rien, mis à part les gens qui sont très limités en termes de réflexion.
Ah là là, bon. Ça y va fort. Hein. Bruno Pomard.
Oui, je suis obligé de partager ce que dit notre ami Samir, Namir.
On va y arriver.
Non, ce qui m'inquiète, moi, dans ces discours, et en l'occurrence, c'est cette caste de la NUPES, là, où il y a un amalgame de partis politiques, où tout un chacun va de sa petite phrase et ne va pas dans le fond, ne travaille pas, en fin de compte. Ils sont là, et c'est étonnant d'ailleurs que Roussel nourrisse quelque part un petit peu les propos qui pourraient venir de la droite, d'ailleurs, effectivement. Mais taper sur ce qui a fait la gauche en même temps, puisque...
Et pourquoi la gauche, ça passe pas? Pourquoi pour la gauche, ça passe pas? Mais parce pourquoi que... le mot travail, ça dérange, ça pose problème?
Non, parce que historiquement, si je peux me permettre, la gauche, c'est le côté social de la France, la proximité avec le petit français. Et on sait qu'aujourd'hui, notamment dans les quartiers populaires, que la gauche a trahi un peu cet électorat-là, ces Français-là. Donc maintenant, venant de sa bouche, bon, bah, si c'est pour faire un constat, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il propose?
Mais c'est quoi là? C'est renouer? Fabien Roussel, il veut quoi? Il veut renouer avec le populaire? Il veut renouer avec la classe des quartiers populaires? Ou le populisme?
Il veut renouer avec les gens qui sont sensibles avec ce type de phrases. Donc aujourd'hui, malheureusement, on sait très bien que c'est les Français qui se nourrissent de propos extrêmes de tous bords, hein, qui sont des propos qui vont taper sur les uns ou sur les autres, et ça nourrit le débat dit politique. Mais concrètement, ça n'apporte rien.
Ça n'a pas de fond.
Après, à un moment donné, on se pose aussi la question de ces politiques, mais il faut aussi se poser la question des médias qui relaient ce type de propos, parce qu'on en fait un buzz. Donc ce buzz, il est bien alimenté par qui? Et il nourrit bien, malheureusement, des émissions. On perd aussi du temps, si je peux me permettre à dire là-dessus.
Mais pourquoi on perd du temps? Non, la preuve, c'est que ça fait réagir.
Ouais, non, mais c'est triste. Franchement, c'est triste. Enfin, il mérite pas d'être député de notre Assemblée nationale pour.
Clochette, lui il a droit à une clochette, lui. Non, mais clochette Tarek, direct si, clochette. Clochette, double clochette. Bruno Pomard.
J'ai pas entendu tous ses propos, mais. À l'issue de cette phrase-là, est-ce qu'il il a fait une proposition pour faire en sorte que le chômage diminue fortement et que les salaires, parce que de faire croire comme Macron l'a pu le faire croire qu'il a combattu le chômage et que ça va mieux, c'est pas vrai, parce que la plupart des gens qui ont retrouvé un emploi, c'est souvent un emploi précaire avec des petits salaires, tout en sachant que les loyers eux augmentent, le train de vie augmente. Donc à un moment donné, quand on met ça face à face, ça ne veut rien dire de dire que je combats le chômage et que les gens ont de plus en plus d'offres. C'est pas vrai. C'est souvent des offres précaires et ça faut le dire.
Alors, faut le dire, justement, Bruno Pomard.
Ce que dit Roussel, là, il y a encore quelques jours, il disait à propos des maires comme moi, qui suis maire du rural, de ne pas payer nos factures électricité. Mais c'est du niveau d'un député, ça? Mais non. Qui travaille sur le fond des dossiers en commission, qu'il fasse des propositions concrètes plutôt que des annonces, des punchlines comme ça. Il dit tout et n'importe quoi.
Est-ce qu'il ne veut pas cultiver sa différence avec la NUPES, par exemple?
Bah, il fait du mélancholisme, là, c'est tout. Hein.
Non?
Bah oui. Voilà, des phrases, n'importe quoi, la police tue, bref, et voilà. Et on en est là actuellement, c'est ça le niveau politique en France. C'est souvent ça. Et malheureusement, on ne le retrouve pas dans les partis auxquels on n'adhère pas, moi en ce qui me concerne, dans le Rassemblement national, j'entends pas ce genre de punchline.
Alors justement, ça, une gauche du travail et pas des allocs. Ça fait grincer.
Oui, non, mais ça fait écho aux Français. Attendez, qu'on n'est pas sur de droite extrême en ce moment, ce genre de propos.
Mais la gauche des allocs, ça veut dire quoi, la gauche des allocs?
Bah, ça veut dire qu'historiquement, il nous fait comprendre que la gauche, elle a soutenu le chômage. Elle a préféré laisser les personnes dans le chômage, sans travail, et les nourrir à travers des allocations. Mais c'est pervers parce que ça sous-entend certaines choses.
Bah oui.
C'est toujours pareil.
Donc, je ne sais pas vous le dire.
Quelque part, c'est aussi violent, notamment de la part d'un communiste, de tenir ce genre de propos. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il propose concrètement pour combattre le chômage? Elle est là la vraie question.
Est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement, et pardonnez-moi évidemment la vulgarité de la manière dont je vais l'amener, ça veut dire
oui,
en
fait
gros,
du Zemmour.
Certains viennent gratter les allocs.
Oui, non, mais ça sous-entend.
En gros, ça sous-entend ça.
Oui. Et puis quand on dit ça, on revient.
À en gros, secouez-vous, allez travailler.
On revient aussi à quel type de Français. On peut continuer dans cette logique-là. On va parler de la banlieue.
Alors autant quand ça vient de Zemmour, c'est pas choquant, mais quand ça vient de lui.
Ouais, mais le problème, c'est quelque part, malheureusement, on s'habitue à ce genre de propos.
Ah, on s'habitue.
C'est terrible. C'est violent parce qu'il sous-entend des choses.
Bruno Pomard. Ouais. On s'habitue à ce genre de propos.
Non, mais en même temps, tiens.
Là, ça s'appelle la stigmatisation.
Et en même temps, effectivement, de toute manière, tous les processus qu'on a mis d'aide sociale depuis 40 ans, depuis 50 ans, sont allés dans le sens d'aider les plus précaires, etc. Mais à un moment donné, il est clair qu'il y a une partie.
Et on doit être fier de ça, c'est pas donné à tous les pays.
Oui, mais j'ajoute.
C'est une fierté.
C'est qu'il y a un certain.
Il y a des gens qui sont battus pour avoir ça.
Tout à fait, je suis d'accord. Mais
en plus, lui, en tant que communiste, c'est un peu.
On est dans un système tel qu'effectivement, il y a une partie de personnes, je dis bien une partie de personnes, qui profitent de ce système pour pas les.
Oui, mais.
Regarde, lorsqu'on te dit, plutôt que d'aller travailler, je reste à la maison parce que j'ai les aides sociales, donc tranquille.
Oui, mais
ça, je l'entends du moins.
Pourquoi
je
sais violent?
Vous l'avez entendu, ça?
Bien sûr, mais c'est pas un scoop. Non, c'est réalité. Mais en faire une généralité.
Mais on peut faire le parallèle avec le privilège aussi des élites. Nos gouvernants, notre président, nos ministres, certains hauts fonctionnaires ont des privilèges aussi auxquels, pour certains, ils abusent et ils vivent de ça aussi. C'est pour ça qu'on voit très bien que là, généralement, les politiques ne lâchent pas le pouvoir parce que il est attrayant, parce qu'on a quand même une posture, on a quand même aussi un train de vie qui va avec.
La place est bonne.
Et là aussi, moi, j'aimerais bien que Monsieur Roussel fasse aussi ce type de déclaration en disant que maintenant, ça suffit, il va falloir aussi serrer.
Il fait partie plutôt de cette caste-là.
Donc c'est bien toujours de s'en prendre aux pauvres, parce que souvent on leur donne pas trop la parole pour parler, mais il faudrait faire aussi le parallèle avec les élites françaises.
Mais ce que tu dis très justement, on l'a vu avec ce qui s'est passé avec la NUPES, la LFI qui a ouvert aux élections législatives pour permettre à nombre de politiques, je pense en premier évidemment à Olivier Faure, s'il n'était pas rentré dans cette nasse de la NUPES, il n'aurait jamais été député. Et il y a plein d'autres députés, parce que on le dit...
C'est ce qu'on appelle les gauches.
Et oui.
Il y a des courants différents.
Et ça a bien servi à certains qui étaient quand même en phase de déclin total.
Donc je propose à nos auditeurs, s'ils veulent intervenir, n'hésitez pas, c'est au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Venez débattre avec nous, notamment sur les sujets qui vous concernent, qui nous concernent aussi notamment. Tiens, Fatima de Paris. Bonsoir Fatima.
Bonsoir Adil, bonsoir à vos invités.
Bonsoir. Bonsoir.
Longue vie à Beurre FM.
Merci, longue vie à vous.
Merci beaucoup. Ah, moi j'aime bien la vie, donc merci beaucoup.
Ça me fait vive plaisir. La vie.
Vive la vie. Moi je suis tout à fait d'accord avec Roussel.
Oui.
Mais à condition
qu'il
s'occupe un peu des politiques, du Sénat, du Parlement, de ce qui se dépense à l'Élysée, et de toutes ces machins, ces cabinets fermés.
Oui.
Donc là, je serais d'accord avec...
Je viens de le dire, hein. Vous avez suivi, hein?
Oui, j'ai entendu, oui. Et donc, vous parlez de communistes. Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de communisme en France.
Oui, c'est vrai.
Ils ont des communicants payés à coups de millions. Et à chaque fois, ils leur disent une phrase pour exister. C'est tout. Je ne pense pas qu'il a dit ça, il sait qu'il y aura tout le temps du chômage, il n'y aura jamais un chômage d'euros. Il va toujours y avoir du chômage, ouais. Et ils ne vont pas laisser les gens crever de faim.
Ouais.
Donc, pour exister, regardez, tout le monde en parle.
Tout le monde en parle. Ça c'est vrai. En plein, d'ailleurs, on était en plein décès de la reine Elisabeth, et puis tout d'un coup soudainement,
ça a fait le buzz
et donc.
Exactement. Tout le monde en parle. Alors qu'il a eu aux élections présidentielles, s'ils avaient un peu de nif, il aurait démissionné. Lui, comme Hidalgo, comme toute la clique, ils auraient démissionné.
Ouais.
Mais comme la politique maintenant c'est un domaine de, je ne veux pas dire la suite. Donc, merci Monsieur Roussel pour les pauvres que vous représentez. Je vous embrasse, Adil.
Merci, je vous embrasse aussi, ma chère Fatima. Merci pour votre fidélité. 01 53 48 3000, venez réagir, venez donner votre avis, notamment sur le ministre de l'Éducation nationale qui propose justement de parler d'éducation à la sexualité à l'école. Est-ce que c'est tabou, pas tabou? Est-ce que vous en parlez de façon très libre? Justement, n'hésitez pas, à tout de suite, 01 53 48 3000. On prend encore un auditeur. Non, on va marquer la pause pub et tout de suite après, on vous récupère. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
J'avais donné, mais il y a longtemps.
18h55 avec Nadir Kaya, le président de Banlieue Plus. 18h55, pardon. Notamment avec Bruno Pomard, ancien membre du RAID, mais également maire, mais aussi chroniqueur média aujourd'hui. Tiens, direction le 78. Le standard reste ouvert. Priorité absolue aux auditeurs. Non. 01 53 48 3000. Vous nous appelez durant toute l'émission. Abdeslam, bonjour.
Oui, bonsoir Adil.
Vous nous appelez de quelle ville, Abdeslam?
Numéro.
Magnanville.
Magnanville.
Pas loin.
Magnanville, c'est pas loin. Ouais, c'est la région mantaise.
Qui a connu malheureusement un drame avec nos policiers qui ont été assassinés, Magnanville.
Ah oui, oui.
Ah, le couple.
Ouais. Exactement.
Le couple, ouais. Il y a deux ans.
Il y a deux, oui.
Trois ans. Deux ans.
Non,
plus, c'était avant le Covid.
Avant le Covid, ouais. C'est il y a bien longtemps.
Au moins quatre ans.
Abdeslam, alors on vous écoute, mon cher, cher Magnanville. Comment on dit les gens de Magnanville?
Magnanvillois.
Magnanvillois, ouais, tout simplement.
Pas, voilà, faire compliqué.
Tout d'abord, merci de nous donner la parole. Moi, je suis papa de 40 ans, 3 enfants, et donc je réagis par rapport aux propos que vous avez rapportés du ministre. Je n'ai pas encore entendu ce qu'il avait dit. Et puis, j'ai un avis écouté, là, le premier.
On vous entend très. On vous entend, Abdeslam, on vous entend très mal. Soit vous êtes trop collé à votre appareil. Moi, je pense qu'à mon avis, peut-être.
Vous m'entendez mieux, là?
Oui, c'est mieux, là.
D'accord. C'était le haut-parleur. Alors, je vous disais que j'avais un avis mitigé. Le premier, c'est que bon, si déjà l'instruction nationale, puisqu'on a l'habitude de l'habiter,
de l'appeler éducation nationale, mais en réalité, ils sont là pour nous apprendre des maths, les français et autres.
C'est bien, c'est...
Si déjà l'instruction nationale pouvait être faite correctement,
oui,
on pourrait parler d'autres sujets. Ensuite, concernant ce sujet...
délicat.
C'est vrai que si on parle de prévention, ça dépend de comment on veut l'aborder. Si on, parle de prévention, parce que malheureusement, il y a des drames, il y a des abus, il y a aussi des enfants qui se trouvent dans des situations, des filles qui tombent enceintes, par exemple. Voilà, donc ça dépend vraiment, il faudrait creuser. Mais mon premier avis, c'est qu'il serait mieux d'abord de s'occuper de l'instruction.
Je vous pose la question. Vous avez commencé par nous dire, vous êtes père de famille, trois enfants.
Oui.
Vous en parlez avec vous? Vous parlez de sexualité avec vos enfants?
Pas encore. La plus grande a 11 ans. On n'a pas...
11 ans, on peut en parler. Hein. Pourquoi vous ne voulez pas en parler? Parce que c'est tabou?
C'est pas tabou. Nous, on considère que c'est pas encore, qu'ils n'ont pas encore besoin, mais...
11 ans, quand même.
11 ans, j'ai 11 ans, ouais.
Aux enfants, on en parler, non?
Ah bah oui, les petites...
Je donne la parole à nos débatteurs, Nadir Kaya.
Si, moi j'ai un enfant de 11 ans, on a déjà évoqué ce sujet, parce que à 11 ans, ils sont déjà...
Ils peuvent être
amoureux déjà, ils peuvent nous parler d'une copine ou d'un copain par rapport aux situations qu'ils vivent à l'école. Donc c'est des choses qu'on aborde. Et,
ou sur les réseaux sociaux, parce que sur ça, on est
sur les réseaux sociaux. L'apprentissage se fait surtout sur les réseaux sociaux, c'est ça.
C'est de filtrer, mais il faut en parler aussi. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un souci pour en parler. Il faut anticiper, comme le disait l'intervenant juste là, en termes de prévention. Mais bon, moi je suis d'avis aussi à avoir aussi une instruction scolaire à ce niveau-là, et d'en parler aussi au plus jeune âge, dès le collège, la sixième, pourquoi pas. Mais je pense qu'il faut l'aborder à l'école et aussi dans le milieu familial, parce qu'après, ça, malheureusement, c'est comme toute chose dans la vie. Dès l'instant où vous l'abordez pas les choses, il y a un moment donné, ça vous revient à la figure.
Bruno Pomard.
Moi, ce qui m'inquiète, et je suis d'accord avec vos propos évidemment, c'est de demander encore et toujours à l'éducation nationale de tout faire. Quand on sait qu'on est à la dérive sur pas mal de choses, c'est-à-dire ne serait-ce, et vous l'avez dit tout à l'heure, déjà apprendre à lire et à écrire, pour certains c'est déjà une problématique, tu as raison, et là on demande toujours, en plus un peu comme les policiers avec les missions, on leur donne toujours de plus en plus de missions à assumer. Au bout d'un moment, à force de vouloir tout faire, on fait tout à moitié ou on ne le fait pas du tout. Donc c'est ce qui m'inquiète seulement. L'idée est très bonne, j'en doute pas, mais il va falloir peut-être avoir des aides assistants, des gens qui puissent aider nos profs dans les collèges et dans les lycées, parce que à mon avis ça va être un problème en termes de temps, de timing et de passage de messages, parce qu'il faut être formé en même temps. On peut pas parler, pas parce qu'on est prof de français qu'on va parler de sexualité de façon efficace ou tout au moins modérée, je dirais.
Après, moi si je peux me permettre, sur l'éducation nationale, c'est un pilier de notre démocratie et de notre France. Malheureusement, là aussi, les politiques tiennent des propos depuis des années qui ne sont pas à la hauteur des attentes des enfants, mais également du corps enseignant. Il y a un vrai travail à faire là-dessus. Il faut des moyens humains aussi, il faut des infrastructures. Je rappellerai qu'aussi, beaucoup d'écoles, notamment dans les villes populaires et dans les banlieues, sont des écoles. On a vu des exemples et des émissions sur Marseille, ou même en Seine-Saint-Denis, où les profs n'ont pas les moyens de faire des cours correctement, parce que l'établissement, d'un point de vue sécurité, n'est pas dans les normes. Donc là aussi, il y a des déficits. La pédagogie qui est enseignée aussi, il y a des débats aussi depuis des années sur pas mal de sujets, les professeurs qui sont pas suffisamment formés. Donc là aussi, que le ministre fasse une annonce en disant qu'il faut aborder la sexualité à l'école, d'accord, mais est-ce que c'est une priorité des priorités? C'est ça qu'il faut se poser comme
Abdeslam,
question.
Abdeslam, vous vouliez rajouter autre chose?
Juste une dernière chose, c'est tout le mot pédagogie. C'est-à-dire que l'une de mes craintes, pour être franc avec vous, c'est qu'il y ait des dérives. Moi, j'ai grandi en France et on a tendance parfois par raccourci à mettre des choses dans des cases. Si c'est de la pédagogie, dans le sens où on écoute les enfants, où ils en sont, prenons, ma fille est en sixième, ils sont 30 élèves. Les 30 élèves ne vont pas avoir la même maturité par rapport à ce sujet-là.
C'est
vraiment plus là ma crainte. Maintenant, j'entends vos propos et j'essaie de pouvoir en parler le plus tôt possible, et je suis assez d'accord avec vous. Et voilà, je vous remercie pour...
Merci Abdeslam. Merci d'être intervenu. Merci. Je vous le rappelle, messieurs, justement, c'est le sujet. L'éducation, la sexualité, vous faites comme Abdeslam, 01 53 48 3000. On voudrait vous entendre, évidemment. Venez nous donner votre avis. L'éducation, la sexualité, mais messieurs, écoutez bien, est obligatoire dans les écoles depuis une loi de 2001, a rappelé le ministre de l'Éducation. Alors, rappelons quand même les objectifs de cette action, puisque vous vouliez tout à l'heure le savoir. Le ministre a cité la réduction du nombre de grossesses précoces, et ça, effectivement, c'est une réalité. La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi la lutte contre les discriminations, les violences sexistes et sexuelles. Voilà. Et les LGBT, etc., etc.
Ben, le tableau est complet, comme on dit. Hein, et c'est ce qui touche particulièrement nos enfants, hein, notre jeunesse. Donc, il est essentiel, effectivement, de faire ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas, enfin, je pense tout, là, qu'il y ait aussi des associations, peut-être, qui viennent en support.
Parce que moi, les associations. C'est bien qu'il y ait des associations.
Mais il faut savoir
ça existe,
faire attention.
Ça faut, existe oui. déjà. Il y a toutes sortes d'associations qui interviennent dans le milieu de l'éducation nationale, que ce soit pour la sexualité, pour le sport, la culture. Les associations, à un moment donné, ça suffit. Je pense que l'État doit assurer son rôle, et c'est pas le cas. Ce que je disais au préalable, c'est que il y a une annonce du ministre de l'Éducation, c'est très bien, mais quelles sont les priorités? Moi, j'aimerais bien qu'il nous fasse un schéma de façon très simple. Hein. Aujourd'hui, je pense que les Français sont pas bêtes, il faut leur expliquer les choses et surtout les entendre. Je pense qu'ils savent très bien ce que les Français souhaitent, c'est une meilleure qualité pour leurs enfants. On sait que le niveau scolaire en France chute depuis les années 50-60 de façon alarmante.
Oui.
Donc si c'est de nous dire aujourd'hui la priorité c'est de parler de sexualité, moi je suis pas d'accord, même si j'ai dit au préalable que c'était intéressant d'en parler. Mais il y a des priorités. La priorité, c'est déjà le bien-être de nos enfants, d'avoir des moyens adéquats. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, notamment dans
Saint-Denis
et dans certains territoires en France.
Oui, mais Nadir, je suis d'accord avec toi, mais le seul souci, c'est qu'on atteint tout du régalien. C'est un peu comme dans la sécurité. On dit la sécurité, c'est l'affaire du régalien, du ministère de l'Intérieur. À un moment donné, c'est un peu l'affaire de tout le monde, je crois. De la famille, de l'éducation nationale, tu as raison, des associations. Il faut que tout le monde se mette au boulot, parce qu'on sait qu'on a quand même un chantier énorme sur les problèmes de violence. Enfin, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Et de la violence, ce qu'on rencontre tous les jours dans la rue. Je crois qu'à un moment donné, tout ça, ça doit être l'affaire et des familles, et des institutions, et des associations, mais n'attendons pas tout du régalien. Parce qu'on a tendance à réagir, mais les maires en particulier, de dire, ouais, mais c'est l'affaire du ministère de l'Intérieur, ouais, mais c'est l'affaire de l'éducation nationale. Essayons de nous regarder un petit peu, et de dire,
alors,
qu'est-ce
Bruno,
qu'on peut
non,
faire
si je peux me permettre, j'ai peut-être pas assez clair là-dessus, mais moi j'attends pas tout du régalien. Adil le sait très bien, je suis pour responsabiliser les Français de façon générale sur le fait d'être des citoyens pleinement, à tous les niveaux, et ça vaut également pour l'éducation nationale, et notamment pour les parents. Moi j'incite tous les parents à être parents d'élèves, oui, parce que quand je vois le nombre de parents d'élèves dans une classe, c'est pas normal. Je pense que quelle que soit la situation,
on va attendre nos auditeurs,
il faut que ce soit pas une obligation, mais il faut que logiquement tous les parents soient parents d'élèves pour s'intéresser au minimum
être présent
à ce qui se passe à l'école, notamment vis-à-vis des enfants, même
ça, c'est
des difficultés,
je suis d'accord
par
avec
rapport
vous.
À des familles qui peuvent pas et tout ça. Mais ça, c'est ça
d'ailleurs,
doit,
on voudrait entendre les parents d'élèves s'ils nous écoutent. 01 53 48 3000. Un sujet, on reste dans l'éducation nationale. Le ministre a dit vouloir revaloriser les salaires. 2000 euros par mois en début de carrière. C'est une bonne chose.
Alors,
une fois, on parle du pouvoir d'achat.
Mais c'est la surenchère, non?
C'est la surenchère, parce qu'à un moment donné, je pense que tous les fonctionnaires, entre guillemets, tous les gens de la fonction publique vont demander aussi à être valorisés. Je pense à nos policiers.
Là, on ouvre la porte.
Et on ouvre la porte à tout le monde. Et les postiers, tout le monde doit être augmenté, si on veut, de l'égalité. On entendait sur l'affaire des juges avec Dupond-Moretti ce matin qui
propose 1000 euros par mois.
1000 euros par mois. Si on commence à ouvrir la boîte de Pandore, il va servir tout le monde.
Ils ont eu raison.
Ça veut dire quoi? Des milliards. Ben, écoutez, c'est encore revaloriser les gens les moins aidés. Alors là, je crois que pour la justice, c'est les juges. Donc c'est un certain niveau de salaire. Mais je pense qu'il faut aider surtout les petits salaires dans toute notre fonction, que ce soit la SNCF et autres. Parce qu'on sait que la problématique du pouvoir d'achat vient de ça aussi, du niveau des salaires.
Et l'auditrice,
extrêmement bas,
l'auditrice, vous l'avez écouté tout à l'heure, l'auditrice, la directrice d'école, Sarah.
Oui.
Elle disait que certains sont payés 1600, 1800.
Eh oui, oui.
Non mais... Là encore, si c'est juste une annonce pour dire je vais les augmenter de 1000 euros, comme dit Bruno, à un moment donné, il faut regarder tout le monde et rehausser aussi les salaires entre ceux qui travaillent dans des zones hyper difficiles, dans des zones ciblées, notamment dans les quartiers où on dit que c'est hyper difficile d'enseigner. Et généralement, on met simplement ceux qui sortent de l'école ou qui sont pas formés. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des profs aujourd'hui qui sont formés, je crois que 3 mois de formation.
Oui, c'est ça.
Mais 3 mois. On les envoie pas dans les écoles du côté de Neuilly ou Boulogne. Hein. On les envoie en Seine-Saint-Denis. On leur dit non, il faut commencer comme ça. Non, c'est mal comprendre les besoins de ces élèves-là et de ces parents. Quelque part, d'envoyer des gens sans leur manquer de respect qui ne sont pas formés. Et ça, c'est un vrai problème dans les banlieues, c'est qu'on met aussi souvent des profs qui ne sont pas formés et on a aussi le problème de remplacement. Donc c'est pour ça que je dis que le ministre qui avait l'air intéressant au début en disant qu'il allait faire beaucoup de choses et se battre contre les inégalités aussi, moi les inégalités, là, je n'entends pas parler de résoudre ces problèmes-là. Et ça, c'est un vrai problème en France. Il y a des disparités entre les villes, entre les banlieues, qui sont inacceptables en France aujourd'hui, en 2022. Moi, j'étais du côté de la Courneuve-Bobigny pendant des années. J'apportais des feuilles et des feutres aux professeurs de mes enfants.
Une fois revenu dans le 92, c'est un autre monde. Pourtant, on est juste à côté. Tu passes le 92, par contre, on a un peu plus de moyens.
Hein.
Voilà, donc il y a des disparités, des inégalités qui sont inacceptables aujourd'hui.
Allez, direction le standard.
C'est à eux de mettre ça sur la table et de régler en profondeur les problèmes.
Y compris, on en parle avec les auditeurs au 01 53 48 3000. Direction le 94. Je vais tâcher de voir quelle ville. Fatia, bonjour.
Vitry. Bonsoir.
Alors, Nadir Kaye dit que vous habitez Vitry.
Je sais pas. Vitry-Villers.
Du tout.
Quelle ville?
Chevilly-la-Rue.
Chevilly-la-Rue. Clochette pour Nadir Kaya, il s'est planté, mon cher Tarek. Clochette, il a droit à une clochette. Voilà. Tac, 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 tac. Fatia, on vous écoute. Bienvenue.
Carte au jour, non?
Bah écoutez, là, j'ai pris votre émission en cours, j'ai vu que ça parlait des parents d'élèves.
Oui.
Moi, je suis parent d'élève depuis que ma fille était en TP.
Très bien.
Donc maintenant, elle va avoir 19 ans.
Oh, grande demoiselle!
C'est ça.
Elle a passé son bac.
Elle a eu son bac avec mention très bien.
Super,
bravo,
super.
Et est-ce que
bravo,
bravo.
Et est-ce que
bravo.
Dans les réunions de parents d'élèves, il y a beaucoup le parent?
Ça diminue. Ouais. On en a de moins en moins.
C'est pas bon signe ça.
La question.
Ah, oui. Et pourquoi ça diminue?
C'est pas bon signe.
Qu'est-ce qui les décourage?
Le tout, l'enseignement, les profs qui sont pas à la hauteur. Moi, j'ai l'impression qu'ils s'occupent pas de, entre guillemets, qu'ils s'occupent pas de leur gosse. C'est un ras-le-bol général.
Ouais. Ras-le-bol général. Vous entendez ce qu'elle dit? Et le ras-le-bol, il viendrait de quoi, Fatia?
Du gouvernement que l'on a, parce qu'il prend pas, dans les doléances des parents d'élèves. Des associations de parents d'élèves, surtout.
Mmh. Trop facile, si je peux me permettre.
Oui, Nadir, Kaya vous dit que c'est trop facile de dire ça.
Je vais vous raconter une histoire. J'ai eu ma fille qui a eu un prof d'anglais en première. Le prof avait été recruté par l'Académie de Créteil.
Mais
du jour au lendemain, s'il manquait des profs.
Bah, mon fils l'a déjà, prof d'anglais. Déjà absent.
Mais Nadir Kaya, notre débatteur, vous dit un peu trop facile de dire ça.
Non, c'est pas facile, parce qu'au bout d'un an, il a démissionné, il a même pas fait, il a terminé son année, il est parti. Il m'a expliqué qu'il a vécu à Hong Kong, et du jour au lendemain, il revient en France, il a pas de travail, il voit que l'Académie de Créteil recrute des profs,
ouais,
il se présente.
Ils font des formations
accélérées. Ben, allez-y, d'échanger avec Fatia, Nadir Kaya. Nadir Kaya,
je connais le.
Oui,
le
c'est la pédagogie, moi je parle de la pédagogie. Ok, il est prof d'anglais, il parle anglais couramment. Mais après, il faut être pédagogue avec
c'est
les
clair.
Élèves.
C'est un métier.
C'est une question de pédagogie, c'est un métier. Soit on est pédagogue, soit on l'est pas.
Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, si je peux me permettre, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une telle urgence dans l'éducation nationale que l'éducation nationale n'a plus le temps de former les professeurs sur la durée, donc ils font du va-vite, et ils les forment. Là, j'ai vu des formations accélérées en 3 semaines, et après, ils les jettent directement dans les écoles, et si possible, des écoles de banlieue, parce qu'on s'en fout un petit peu là-bas, les gens ne gueulent pas trop, donc on va leur envoyer ça à ses enfants. Moi, j'ai l'exemple avec mon fils, là, qui est au collège, c'est la rentrée, son prof d'anglais est déjà absent, et ils ont prévu 3 semaines. Bien évidemment,
déjà absent.
Sans aucun remplaçant.
Oui. Oui.
Si on avait été du côté de Neuilly-Boulogne, désolé de les citer parce que c'est les villes références là où je suis dans les Hauts-de-Seine, ils sont remplacés le jour même.
C'est vrai?
Ils ont une réserve de professeurs.
Et oui, mais
dans les villes riches, ils ont une réserve de professeurs. Ils pallient dans la journée, voire le lendemain.
L'éducation nationale, là.
Dans certaines villes, dès qu'il y a des absents, c'est le jour même, voire le lendemain, où il y a le remplaçant.
C'est comme ça qu'on crée les inégalités.
Ou même ailleurs.
C'est comme ça qu'on crée les inégalités, messieurs.
Ça fait partie des inégalités, bien évidemment.
Parce qu'on n'est pas. C'est scandaleux. On ne peut pas les imposer, donc les profs vont où ils ont envie.
Il y a des mamans, des parents d'élèves qui ont fait des grèves pas possibles l'année dernière et depuis des années dans les écoles parce qu'il n'y a pas de remplacement du tout. Ça, c'est catastrophique.
Ben oui, tu as un poste on va pas discriminer, mais il faut le dire, parce que c'est la vérité.
Le Covid aussi.
Dans un quartier Saint-Denis, le mec préférera aller à Boulogne ou à Neuilly. C'est évident.
Ils ont même pas d'écho de ce qui va se passer. Donc, ils sont dans l'attente d'un remplaçant. Et l'enfant, malheureusement, il va avoir des carences dans cette matière-là. Et puis, ça va le suivre pendant des années, parce que il y a des paliers au niveau de l'école qui sont hyper importants. Dès l'instant où vous avez un prof qui est absent, ça peut être préjudiciable pour la suite.
Fatia?
Oui.
Ah, c'est terrible, hein?
C'est terrible. Moi, j'ai dû prendre un prof d'anglais, donc je prends des profs à mes 20 ans. J'ai pas le choix.
Vous rendez compte, il faut payer un prof.
Cette année, la rentrée du collège, moi, mon fils est passé au lycée cette année. Donc, ça va, je m'en sors bien. Mais j'ai toutes mes amies qui ont encore des enfants au collège. Il manque. Alors, Le gosse, dans la journée, il n'a pas anglais, il n'a pas français, il n'a pas maths.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire que sur une journée de 7 heures, il a 3 ou 4 heures de cours.
Non, mais ça, ça craint. C'est une sonnette d'alarme qu'il faut faire. Mais ça fait des années que dans les banlieues, il y a toutes sortes d'exemples comme ça. Mais oui, l'éducation nationale
donc,
là-dessus.
Nous, on écrit, on fait des courriers à l'académie. On fait ça avec la maire de Chevilly-Larue.
Vous avez des retours ça.
Ah, bah, au bout d'un moment, oui. Ils nous mettent des profs. Mais parce qu'on est devant le.
Il faut se battre.
Voilà. On bouge pas.
C'est pas étonnant.
Mais... Bon. En tout cas, j'ai bien noté que vous venez de nous dire sur l'antenne des informés que vous avez fait un constat qu'il y a de moins en moins de parents d'élèves sur ces dernières années.
Ouais. Ouais. C'est tout à fait
ça. Ça, c'est dommage. Ouais. Ça fait partie de la responsabilité des
Merci,
des
Fatia, de nous avoir fait partager votre témoignage. 01 53 48 3000. Continuez de nous appeler comme Fatia et tous les autres. Nous vous attendons au standard 01 53 48 3000. Décourageant quand même, messieurs.
Bah, c'est décourageant, oui. Moi, j'avais connu la police, tout ça, avec les jeunes policiers qui sortent des écoles de police. J'ai connu ça il y a 30 ans en arrière et c'est toujours le cas. Quoi.
Encore une 30 fois. Ans après, ça n'a pas changé.
Oui, il y a des policiers qui ont de la bouteille et qui ont l'expérience qui restent encore dans ces quartiers parce qu'ils ont la fibre. Mais en même temps, lorsqu'on a de jeunes policiers qui nous viennent de province, qui déboulent de ma campagne et qui se retrouvent dans la région parisienne, effectivement, c'est un peu le choc. Quoi. Et c'est pas évident, surtout quand on est policier.
Non, moi, ce qui me désole, c'est le constat qu'on fait de façon générale sur la société française. On parle de l'éducation nationale, mais on peut revenir, vous en avez parlé, sur la sécurité avec la police, on peut en parler des pompiers, le manque des moyens, la santé. Il y a un moment donné, ça, bon, on n'est pas si vieux que ça, mais ça fait quand même c'est des sujets qu'on aborde depuis 20-30 ans.
Bien sûr, bien sûr.
Donc à un moment donné, au-delà des petites phrases, c'est pour ça que moi, les politiques, ça me fatigue de gauche comme de droite, c'est à un moment donné, il faut prendre... En plus, le pire, ce qui est frustrant en France, c'est quand on voit les compétences, il y a quand même des gens qui ont des compétences extraordinaires, il y a un potentiel, il y a un vivier en France qui est extraordinaire, mais on dirait que la politique fait tout pour ne pas les voir ou pour ne pas s'appuyer sur ces gens-là à cause des idéologies politiques de gauche ou de droite. On le voit bien. Tu peux avoir un gars qui peut être politisé à droite avec une bonne idée, mais sous le prétexte d'être de droite, le gars en face qui est de gauche va dire non, c'est pas une bonne idée. Non, pas parce qu'il est de gauche ou de droite, mais parce que voilà, c'est pas terrible.
Ouais, ouais.
Et là, on perd du temps sur ces affrontements bidons politiquement qui nuisent à la France de façon générale.
Alors qu'il
y a des sujets, il y a des sujets qui pourraient être réglés facilement dès l'instant où il y a de la volonté. Tout n'est pas que de l'argent, il faut pas que de l'argent. On a le plus important aussi, c'est la ressource humaine et puis la jeunesse. Mais on a l'impression que les politiques ne s'appuient pas dessus.
C'est la politique du bon sens, mais il faudrait peut-être monter un parti, je sais pas, le parti du bon sens, mais pour trouver les bonnes idées partout et récupérer et ne pas faire, encore une fois, que de la politique politicienne sur tout un tas de sujets qui nous concernent tout. On peut, sur l'économie et autres, avoir des polémiques et puis se battre, les politiques. Mais il y a des sujets tellement importants, l'éducation, la santé, qui sont des choses tellement essentielles pour notre pays, pour le devenir de notre pays, c'est dommage que nos politiques ne trouvent pas des consensus. Quand vous avez des votes à l'Assemblée nationale, on entend des trucs complètement ahurissants. Et c'est un peu dommage.
C'est pour ça que moi, par rapport à ça, je n'attends pas tout des politiques. J'invite les Français vraiment à se sentir Français pleinement au quotidien, quel que soit le domaine dans lequel ils s'investissent. Être citoyen, c'est pas dire oui, j'ai une pièce d'identité ou sais chanter la Marseillaise. C'est s'impliquer en bas de son immeuble, d'aider une voisine qui est en difficulté, un jeune éventuellement qui a des difficultés à l'école, bah, si toi tu as des compétences en anglais, en français, bah, lui donner un petit coup de main, une heure par semaine. C'est des petites choses comme ça qui feront qu'on pourra réussir ensemble. Mais il faut de la volonté.
Ouais, exactement.
19h15, on va marquer la dernière pause pub, on se retrouve tout de suite après. Le standard reste ouvert, 01 53 48 3000. Si à celles et ceux qui viennent d'intervenir, je le rappelle, le ministre de l'Éducation nationale, monsieur Papendaï, dit vouloir parler d'éducation, la sexualité, donc à l'école. Êtes-vous, justement, comment, est-ce que ça vous fait réagir, tout d'abord? Est-ce que vous pensez que c'est un sujet tabou ou on peut en parler très ouvertement? Parlez aussi d'un sujet, la revalorisation de la fonction publique. Parlons-en. 01 53 48 3000 à tout de suite. Ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés présentés par Adil Farkan.
Et on vous attend au 01 53 48 3000. Et le débat continue dans les informés. Dernière ligne droite avec Nadir Kaya, président de Banlieue Plus. Avec un autre ancien membre du RAID, maire, mais également aussi chroniqueur télé, Bruno Pomard. La guerre en Ukraine. Parlons-en justement. Alors, l'Agence internationale, justement, de l'AIEA, elle avait préconisé, elle avait évoqué depuis peu d'ailleurs des signes positifs pour l'établissement d'une zone de protection autour de la centrale nucléaire. Alors, disons clairement que depuis quelques jours, la guerre en Ukraine, eh bien la Russie dit bombarder des zones requises par Kiev, parce que vous savez, Kiev a regagné du terrain. Alors, l'Ukraine a revendiqué même, hein, tout au long du week-end, ces derniers jours, justement, de nouveaux succès militaires contre l'armée russe. Est-ce que finalement, je vous pose la question, c'est pas un échec de Vladimir Poutine ?
Alors, si je peux me permettre, Adil, je ne suis pas expert international des guerres et de la désinformation, mais en tant que Français moyen, en regardant la télé, moi, je n'y comprends plus rien. Oui, on nous avait prédit une guerre rapide, entre guillemets, si je peux me permettre, au vu des moyens que les Russes avaient et montraient tous les jours dans les informations. Oui, une invasion rapide, et il allait régler le compte du président ukrainien très rapidement. On voit qu'il s'enlisse. On sait très bien que l'Ukraine est soutenue par beaucoup de pays. Je pense que les armes sont venues, je pense que les hommes ont été formés. Je ne pense pas que ce soit simplement les soldats ukrainiens qui soient capables de faire ce retournement de situation. Hein, il faut pas. Il y a une information qu'on donne.
Parce qu'il y a les Américains derrière.
Il y a une information qu'on donne au grand public et il y a l'information qu'on ne donnera jamais au public, mais qu'on verra dans 10 ans dans les émissions qui relateront ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que le soutien de beaucoup de pays fait qu'aujourd'hui les Ukrainiens peuvent se targuer d'avoir repris, je crois, 3000 kilomètres carrés en une semaine. Quand on regarde bien, c'est extraordinaire. On sait que les Russes ont simplement dit qu'ils rebattaient en retrait pour se redéployer dans le sud, pour reformer entre guillemets les rangs et adopter une nouvelle stratégie. Moi, je trouve que c'est confus. Ce qui me dérange, c'est aussi la part que cette guerre prend dans les médias français. Ce que fait Macron au niveau de l'Europe, je crois qu'il intervient plus beaucoup, il fait juste des tweets parce qu'il a compris que Poutine, c'était une tête dure.
Oh, il a quand même négocié, attention.
Et que Macron était.
Il a eu un entretien avec Zelensky, il a eu un entretien avec Poutine.
Oui, mais ça reste. Ça
là, je vous parle de vendredi dernier. Hein.
Je pense que Poutine.
Même dimanche même.
S'il faut réfléchir sur un travail diplomatique, il faut plus regarder du côté de la Chine, de l'Inde, du nouvel axe qui est en train de se former de l'autre côté pour pouvoir éventuellement agir sur Poutine. Je pense que personne en Europe pourra faire changer d'avis Poutine là-dessus, voire peut-être les Américains, mais il y a un axe plus important qui est en train de se créer de l'autre côté.
Bruno Pomard.
Oui, c'est un constat. Je pense que c'est un constat d'échec de la part de Poutine, qui a la plus grosse armée du monde. Pas nécessairement la mieux équipée, mais en nombre.
Et pas en nombre. En nombre, c'est la Chine.
Oui, mais ils font partie. Oui, mais ils font partie des.
En tout cas, ils font partie des trois. Ouais.
Et il faut savoir quand même
puissance militaire.
L'usure, le temps de guerre depuis des mois et des mois que ça dure, et ça devait être fini en quelques jours, a poussé Poutine à faire du recrutement à tout va.
De mercenaires.
De retrouver et des mercenaires, mais surtout des jeunes militaires russes qu'on envoie au front et qui se font disséminer sur le terrain. On voit que les Ukrainiens, quand même, c'est une armée qui est bien rodée, qui est bien entraînée et surtout qui est bien conseillée, parce qu'il y a nombreux conseillers qui sont là, occidentaux, qui sont là pour les aider stratégiquement à reconquérir des territoires. Et on l'a vu là, effectivement, c'est quelque chose qui est fort. Et si bien que les Russes sont arrivés à un moment donné à vouloir taper sur les infrastructures, couper l'électricité, etc. On l'a vu avec l'affaire de la centrale nucléaire. Donc c'est un sujet qui est compliqué, mais la diplomatie, on voit bien qu'avec Poutine, ça ne marche pas. Hein. C'est un Russe, le mec, il est dans sa logique. Hein. N'oublions pas que c'est un ancien du FSB. C'est des mecs qui ont une logique. Ils pensent encore à la Russie de 1917, Poutine. Donc il veut reconquérir l'Empire russe à tout prix. Et pour lui, il ne lâche rien. Et la diplomatie, on l'a vu.
Finalement, la seule issue qui reste, est-ce que ce n'est pas la diplomatie ? Est-ce qu'il n'y a pas là...
Non, mais ce sera toujours la diplomatie.
Les Turcs l'ont fait. Ils ont tenté.
On a vu les sanctions. On pensait qu'elles allaient porter leurs fruits. Ce n'est pas le cas. L'économie russe remonte. Donc à ce niveau-là, à un moment donné, il faut se mettre autour de la table. C'est toujours comme ça qu'on règle une guerre en général, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas les armes qui règlent tout, c'est plutôt la diplomatie et la capacité des uns et des autres à se mettre autour de la table et à négocier de façon très simple et franche. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les seuls qui sont peut-être capables de faire entendre raison Poutine, c'est plutôt l'axe chinois, indien, turc. Erdogan, on en parle beaucoup en France, c'est un peu normal parce qu'on l'aime pas trop.
Et les Chinois, ils ont raison de rester en embuscade en même temps. Ils bougent pas. On voit bien.
C'est pas en embuscade, c'est aussi historiquement, ils ont intérêt à rester avec les Russes. De toute façon, ils n'ont pas la même philosophie que les Américains. À un moment donné, l'impérialisme américain, ça suffit. Donc, je pense que beaucoup de gens le comprennent de plus en plus. Mais Poutine, ça reste quand même un homme assez fort, avec une armée peut-être un peu faible. Mais politiquement et diplomatiquement, il est très fort.
Oui, oui, oui. Il reste sur sa ligne, quoi. Il bouge pas et puis faites ce que vous...
Donc finalement, la guerre, elle est partie pour durer. Messieurs,
moi je pense.
On a le sentiment. Comment vous le vivez de l'extérieur comme ça? Vous dites même, là je m'adresse pas à des experts, mais comment vous le vivez? C'est qu'on est parti pour une guerre qui va durer?
Bah écoutez, Nadir il a raison. Le problème c'est qu'on sait pas. Fait de compte, ça fait une espèce de nébuleuse tout autour de ce qui se passe en Ukraine. D'ailleurs, on a profité pour dire que les problèmes économiques viennent aussi de là-bas. Enfin, tout vient de la faute de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine. Et ça c'est un vrai sujet parce que même les Français ou les Occidentaux de façon générale ne savent plus où ils en sont sur cette affaire.
Désole dans cette situation-là et dans cette guerre de façon générale, c'est les civils. C'est les civils qui morfent, c'est les civils qui meurent, c'est les familles qui sont éclatées. Après, les politiques, à leur niveau, on sait très bien qu'ils sont protégés. Malheureusement, les militaires, ils font ce qu'on leur demande de faire. Mais comme dans toute guerre, aujourd'hui, on aspire à ce que ça se finisse le plus rapidement possible. Mais bon, avec Poutine et les Ukrainiens, et malheureusement l'emprise des Américains sur cette situation, c'est très difficile de voir l'avenir ou de voir un horizon.
À courte durée, oui.
Merci messieurs, merci à Nadir Kaya, le président de Banlieue Plus, merci à vous. Merci Nadir, au plaisir.
Merci à toi Adil.
Plaisir à vous. Bruno Pomard, au plaisir, à bientôt.
Merci mon cher.
Il y a Tarek, aussi.
Ah, Tarek à la réalisation, exactement notre grand Tarek. Je voudrais juste faire un petit message particulier à Naïma. Naïma qui a sombré évidemment, qui a beaucoup souffert, elle est tombée gravement malade. Naïma qui est une fidèle auditrice, qui est banquière. Et quand j'ai appris qu'elle s'est effondrée et qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital sur plusieurs jours sombrée dans un espèce de coma, eh bien je voudrais lui faire un petit message particulier.
Bon rétablissement,
oui. J'ai appris qu'elle allait mieux, en tout cas. Eh bien on lui souhaite un bon rétablissement, de mieux en mieux, un prompt rétablissement. Naïma, reprenez évidemment de la force.
On vous embrasse.
On vous embrasse et on est de tout cœur avec vous. Merci à la réalisation à Tarek 2021. Eh bien c'est Bilal Nedman. Quant à moi, à demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.